Ouellet.
Yes, sir.
En direct.
Non.
En direct avec JC.
Yes, sir.
Et Patricia.
Radio X.
C'est l'heure de rejoindre notre chroniqueuse. Elle est physicienne de formation, femme d'affaires et spécialiste de la culture islamique, Madame Mandana Javan, qui est là. Bonjour, Madame Javan. Ça faisait longtemps. Comment ça va?
Bonjour, Jessie. Ça va très bien. Et vous?
Oui, ça va. On est en pleine campagne électorale. Je sais que la démocratie, ça vous touche particulièrement. vous qui avez fui ni plus ni moins qu'un régime théocratique dictatorial. Vous êtes ici chez vous, en passant, et chez nous. On est tous ensemble là-dedans. Et j'aimerais, en fait, vous l'avez proposé qu'on aborde justement le thème de l'islam versus les démocraties. Puis vous avez envoyé une annonce. D'ailleurs, il y a eu un article là-dessus. Une conférence ou une réunion, je ne sais pas comment l'appeler, ça se passe à la Grande Mosquée de Québec le 18 septembre. On titre « Notre devoir de musulman ». Et dans l'article, on peut lire ceci. « Le Centre culturel islamique de Québec vous invite à une soirée d'échange consacrée à... » Et là, l'ordre est important. « Consacrée à l'islam, à la démocratie et à la participation citoyenne. » Ma question d'entrée de jeu, c'est quoi le rapport?
C'est une très bonne question et sincèrement, parce que c'est pas juste une annonce, hein. Il y a des citoyens qui m'ont envoyé depuis hier des différents emplacements. Il y a des différents centres islamiques au Québec. D'ailleurs, j'en ai vu aux Trois-Rivières, j'en ai vu un autre aussi, qui ont organiser des soirées comme ça. Mais curieusement, le grand titre, en fait, dans toutes les affiches, c'est « Notre devoir de musulman ». OK?
Ouais.
Alors, moi, je m'intéresse sur la stratégie de communication. Qu'est-ce qu'il veut envoyer comme message, insinuer comme message? C'est que c'est le devoir envers l'islam qui pousse les citoyens de culture musulmane de voter aux élections.
Parce qu'habituellement, c'est pas un devoir d'une religion quelconque, c'est un devoir de citoyen d'aller voter.
Encore moins l'islam. L'islam, c'est un système qui est complètement antidémocratique. En fait, les individus ne sont que des sujets envers Allah, puis qui sont soumis obligatoirement soumis tout le monde à la charia. Il n'y a rien. C'est pour ça que c'est impossible. C'est impossible puisque les textes coraniques sont, en fait, la croyance, c'est que c'est des paroles directes d'Allah. C'est impossible de faire évoluer l'islam parce qu'il est 100% antidémocratique. C'est que c'est des choses qui... C'est comme de l'eau et du feu. Tu peux pas les avoir ensemble. Mais ce qui m'indigne profondément, puis moi, je vois, en fait, plus loin un peu, puis l'ampleur du danger.
Parce qu'il y a un message là-dedans. Il y a quelque chose à promouvoir. C'est pas parce que sinon, on aurait dit, faites votre devoir de citoyen, mes amis musulmans. Alors que
c'est pas ça. En fait, il y en a beaucoup, beaucoup de messages là-dedans. Premièrement, il y a un message qui est envoyé aux partis politiques. Pour les faire, pour les tromper et leur donner l'idée que finalement, c'est nous les bergers de la communauté, c'est nous les gatekeepers, c'est nous les leaders. Donc, si vous voulez avoir des votes, il faut venir nous voir. Parce que c'est nous qui va dicter aux citoyens de culture musulmane dans nos réseaux, voter pour qui? Donc, malheureusement, vu l'ignorance, la négligence et la lâcheté des politiciens occidentaux et aussi leur volonté qui est très, très forte pour l'électoralisme, malheureusement, ce piège-là, ça fonctionne très bien, surtout dans un mode, dans une constitution multiculturaliste comme celle du Canada. qui cherchent des leaders communautaires, des Godfather et Godmother, pour aller juste parler à eux sans avoir être obligé de mettre du temps avec les citoyens. Ça, c'est une première chose. Donc, avec le temps, ils vont canaliser toutes les communications avec les politiciens envers eux, tandis qu'ils ne présentent vraiment pas, parce que ce sont des organismes des mouvements islamistes, mais ils ne présentent pas les citoyens de culture musulmane. C'est pas vrai que 1% ou 3% des musulmans qui sont vraiment dans la mentalité de l'islamisme qui a imposé la charia ici, qui représentent 95% qui ne croient pas à ça, puis qui ont justement immigré ici comme moi pour vivre dans la liberté puis la démocratie.
Vous le dites, vous le mentionnez, que c'est pas un grand pourcentage, puis c'est important quand même de le dire. Là. Le but, c'est pas de juste frapper sur les musulmans at large. C'est une petite frange de musulmans qui sont très islamistes, rigoristes, mais pourquoi le reste ne se... Est-ce qu'il y a un manque d'émancipation au sein de la culture musulmane?
Mais l'affaire, c'est qu'il faut faire attention. Ce ne sont pas des rigoristes, ce ne sont pas des intégristes. Ça, il faut pas. Et les islamistes, d'ailleurs, les islamo-gauchistes ou les fréristes, ils ont l'air très, très modérés. Ils ne sont pas des rigoristes, intégristes, djihadistes. Okay?
Oui, je comprends.
Il ne faut pas mélanger. Mais l'affaire, c'est que si 5 % là, un peu on voit aussi dans notre société, notre propre société, les mouvements qui sont à l'extrême gauche, ils sont hyper actifs, ils ont beaucoup de militants, ils vont aller chercher beaucoup de ce qu'on dit des connexions de grassroots au niveau communautaire, au niveau des villes, la municipalité, mais les islamistes, ils font la même chose, ils sont pas nombreux, mais ils sont hyperactifs. Ils ont des plans stratégiques, ils ont des outils. Puis, par ces annonces-là, ils vont aussi aller chercher des réseaux médiatiques et politiques au sein des partis politiques.
Ils ont carrément adopté justement le plan de match de la gauche. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, le plan de match du marxisme.
Et d'ailleurs, ça a créé une espèce de groupe que moi je considère totalement difforme, là, où tu as les chancres du LGBTQ plus X, Y, plus les islamistes dans un même groupe qui militent souvent ensemble, quasiment côte à côte, alors qu'un est l'antithèse de l'autre. Il y a quelque chose, on a adopté la même façon de faire.
Oui, mais avec le temps, on va voir que, justement, les islamistes, ils vont avaler les wokistes.
Mais, OK, donc c'est un chemin partagé temporairement.
Exactement, comme on a vu, justement, à la révolution 1979 en Iran.
Absolument.
Et ce qui est très, très intéressant, c'est que toutes ces wokes-là, par exemple, les Québécois de souche qui sont non-musulmans au sein du QS, ils déchirent leur chemise pour le voile, pour le respect du voile, parce que c'est inclusif. Alors, j'aimerais faire, porter ce point-là, que dans ces affiches-là, on voit toujours juste une femme voilée.
Oui.
On ne voit pas comme, par exemple, les communications du gouvernement du Canada qui tient toujours de mettre une femme voilée, puis à côté, il va mettre aussi des femmes non voilées musulmanes pour dire que, bon, il y en a de toutes sortes. Mais dans ces communications, des islamistes qui, en fait, utilisent l'outil de l'inclusion pour aller faire taire tout le monde, on ne voit pas des femmes musulmanes sans hijab. Donc, c'est hors de question que l'islam, l'islamisme et ces mouvements, ils peuvent prôner pour la démocratie, pour la différence de point de vue. Il n'y a qu'une version, la femme doit porter le hijab. Et quand ils parlent notre devoir de musulman, il fait déjà la ségrégation entre le musulman comme moi, qui est non pratiquant, qui est de culture musulmane.
Une mauvaise musulmane.
Avec celui que lui qualifie le vrai musulman, le bon musulman. Alors, comment dans une mentalité comme ça, on peut parler de la démocratie?
Dans un pays laïque. J'ajoute, dans un pays laïque.
En plus, En plus, ils font ce genre de mobilisation. C'est ça qui est grave. Moi, j'ai aucun problème. Vous avez vu au sein des 5 partis politiques qui sont maintenant en fait, on les connaît, il y a des candidats de culture musulmane. Et un musulman, d'ailleurs comme moi, comme Fatima Aboubakr, comme plein d'autres, il peut avoir des convictions politiques très enflammées. Il peut aller parler à d'autres musulmans pour dire voter pour qui. Il s'implique, il peut militer. Il n'y a aucun... C'est ça la démocratie. C'est pour ça qu'on a immigré ici. On ne met pas en question ça. Mais de mettre dans une balise au niveau d'affiches, puis au niveau d'activités c'est notre devoir, ça veut dire notre appartenance religieuse, notre islam, notre engagement envers la religion nous pousse et justifie notre implication civile et citoyenne. Ça ne fonctionne pas parce que même dans la constitution de la République islamique, la notion de citoyen n'existe pas.
Donc,
en islam, en État islamique, c'est un état de droit, OK? C'est un état de loi. Dans la loi islamique, dans la gouvernance islamique, la notion de citoyen n'existe pas. On est tous des sujets à Allah.
Donc, si un groupe se met de côté en s'identifiant eux-mêmes comme étant donc des musulmans d'abord qui vont faire valoir ni plus ni moins que leurs intérêts aux politiciens pour avoir des promesses, ça devient carrément un lobby. Et qui dit lobby, ben dit lobbyiste et ingérence et pression. Et là, on va sur votre deuxième sujet. Est-ce qu'il y en a de ça? Parce que si vous me dites que la préoccupation première pour certains groupes musulmans, c'est de se faire donner des concessions, des promesses, de faire valoir la culture islamique, il y a possiblement des gens qui travaillent dans ce sens-là.
Absolument. Mais oublions pas que le but n'est pas la culture islamique. Le but, c'est arriver à, de plus en plus, par des petits pas à tous les jours, à transformer les sociétés non musulmanes à des sociétés charia compatibles pour que petit à petit, on remplace sur 50 ans, sur 100 ans, les lois de ces sociétés non musulmanes par la charia.
Une goutte à la fois.
Le but, c'est seulement ça. Il n'y a pas d'autre but. C'est pas le but d'inclusion, la diversité, de mettre en valeur une culture différente. Il utilise ses outils rhétoriques, mais le but, c'est vraiment la normalisation de la charia, puis après ça, la législation de la charia, de même façon que ça s'est passé dans certaines mesures, par exemple en Angleterre. Mais là, la question des lobbies et des agences d'influence, c'est très, très important. Dans le deuxième fiche que je vous ai envoyé, vous avez vu que c'est sidérant. Un homme qui est le fils du vice-président iranien, Tafuri Farr, qui a été un figure très, très, très connue pendant au moins 35 ans dans le régime de la République islamique, il a des entreprises qui sont dans tout ce qu'on peut appeler des technologies militaires.
Wow.
Puis imagine que SPRS, qui est équivalent à CIA,
ouais,
a cette personne-là sous enquête parce qu'il croit d'avoir des liens avec le régime sur l'envoi, puis l'espionnage industriel, l'espionnage militaire.
Lui est au Canada.
Et en même temps que notre CIA au Canada a cette personne-là sous enquête, ces entreprises, ils reçoivent en fait des contrats publics de la part de GRC.
Wow.
GRC, ça veut dire FBI, et de la part de l'armée canadienne. Alors, et si quelqu'un arrive, il me dit, mais non, Mandana, parce qu'on est en gouvernance, puis en administration publique, il y a des silos, CIA ne part pas avec FBI, puis il ne part pas avec l'armée canadienne. Je m'excuse, j'achète pas, là. C'est la question de la sécurité nationale. Il y a 25 ans, quand je remplissais mes formulaires d'immigration, la seule chose qui me manquait à me poser comme question, c'était que tes frères et tes sœurs, qui étaient des enfants à date, qu'est-ce qu'ils mangent pour déjeuner? Comment se fait-il que GRC, l'armée canadienne, il donne des contrats militaires pour quelqu'un qui est sous enquête de CRS,
ouais, les services
pour ses liens possibles avec IRGC? Puis en plus, on sait depuis 2020 comment ça va aller mal. Puis après, comme Canadien, on dit, mais les Américains sont méchants envers nous, là, parce que les Américains, on est capable d'assurer la sécurité du Grand Nord. Alors, mettez-vous à la place des politiciens américains dans le monde des adultes. Est-ce que les Américains, ils vont faire confiance à une administration, à un gouvernement, à un État qui n'a aucune compétence? Alors, quand on parle des lobbies, moi, ça fait 25 ans que je suis ici, puis ça fait depuis longtemps que je vois les lobbies médiatiques dans nos médias, que ça soit beaucoup plus à la Radio-Canada, mais aussi à TVA, à LCN, les lobbies universitaires, énormes. Les lobbies au niveau Parti vert du Canada, là.
Est-ce qu'on a été naïf presque d'un bout à l'autre?
Mais naïf est un peu doux là, comme mot, mais je vais rester là parce qu'à un moment donné, si on n'a pas la compétence de gérer nos affaires, je sais que travailler, c'est dur. Je sais que c'est plus fun d'avoir juste du plaisir, c'est du fun, mais à un moment donné...
On manque de colonne vertébrale, c'est ça? C'est pas de la naïveté, c'est un manque de courage, peut-être de travailler aussi.
Et aussi fun, de connaissances. Quand je parle du travail, parce que pour pouvoir, parce que ça suffit pas juste aller là puis juste de crier, ou il faut avoir de la connaissance, il faut étudier, il faut se mettre au travail, il faut réfléchir, et tout ce qui est intellectuel, c'est difficile pour le Canadien.
Madame Javanne, ça en était une bonne, ça. Merci beaucoup.
Oui, merci de brasser, c'est bon. Ça.
On est là pour ça.
Merci beaucoup.
Merci.
OK,
bonne
à la
fin prochaine. De journée, bye.
Tout ce qui est intellectuel, c'est pas le Canada, ça.
Non. Puis quand il faut travailler, c'est moins nous autres aussi. Mandana Javanne. Tabarouette. Hein? Elbows up!
Elle fait dire « Wake up, guys! Vous n'êtes pas naïfs. Vous travaillez pas. »
Exact. Vous n'êtes pas naïfs, vous n'avez pas de colonne. On revient.
Ouellet.
Yes, sir.
En direct.
De retour dans un instant.
Radio X.